Jules Verne, sans dessus dessous, chapitre 9, dans lequel on sent apparaître un deus ex machina d'origine française. Tels devaient donc être les profits dus à la modification apportée par le président Barbicane à l'axe de rotation. On le sait d'ailleurs, cette modification ne devait affecter que dans une mesure insensible le mouvement de translation de notre sphéroïde autour du Soleil. La Terre continuerait à décrire son orbite immuable à travers l'espace et les conditions de l'année solaire ne seraient point altérées. Lorsque les conséquences du changement de l'axe furent portées à la connaissance du monde entier, elles eurent un retentissement extraordinaire. Et, à la première heure, on fit un accueil enthousiaste à ce problème de haute mécanique. La perspective d'avoir des saisons d'une égalité constante et suivant la latitude au gré des consommateurs était extrêmement séduisante. On s'emballait sur cette pensée que tous les mortels pourraient jouir de ce printemps perpétuel que le chantre de Télémaque accordait à l'île de Calypso et qu'ils auraient même le choix entre un printemps frais et un printemps tiède. Quant à la position du nouvel axe sur lequel s'accomplirait la rotation diurne, c'était un secret que ni le président Barbicane, ni le capitaine Nicholl, ni J.T. Maston ne semblaient vouloir livrer au public. Le dévoilerait-il avant ou ne le connaîtrait-on qu'après l'expérience? Il n'en fallait pas davantage pour que l'opinion commençât à s'inquiéter quelque peu. Une observation vint naturellement à l'esprit et fut vivement commentée dans les journaux. Par quel effort mécanique se produirait ce changement qui exigerait évidemment l'emploi d'une force énorme? Le Forum, importante revue de New York, fit justement remarquer ceci. Si la Terre n'eût pas tourné sur un axe, peut-être aurait-il suffi d'un choc relativement faible pour lui donner un mouvement de rotation autour d'un axe arbitrairement choisi. Mais elle peut être assimilée à un énorme gyroscope se mouvant avec une assez grande rapidité, et une loi de la nature veut qu'un semblable appareil ait une propension à tourner constamment autour du même axe. Léon Foucault l'a démontré matériellement par des expériences célèbres. Il sera donc très difficile, pour ne pas dire impossible, de l'en faire dévier. Rien de plus juste. Aussi, après s'être demandé quel serait l'effort imaginé par les ingénieurs de la North Polar Practical Association, il était non moins intéressant de savoir si cet effort serait insensiblement ou brusquement produit. Et dans ce dernier cas, ne surviendrait-il pas des catastrophes effrayantes à la surface du globe au moment où le changement d'axe s'effectuerait grâce au procédé de Barbicane & Co.? Il y avait là de quoi préoccuper aussi bien les savants que les ignorants des deux mondes. En somme, un choc est un choc, et il n'est jamais agréable d'en ressentir le coup ou même le contre-coup. Il semblait vraiment que les promoteurs de l'affaire ne s'étaient point préoccupés des bouleversements que leur œuvre pouvait provoquer sur notre infortuné globe pour n'en voir que les avantages. Aussi, très adroitement, les délégués européens, plus que jamais irrités de leur défaite et résolus à tirer parti de cette circonstance, commencèrent-ils à soulever l'opinion publique contre le président du Gun Club. On ne l'a pas oublié, la France, n'ayant fait valoir aucune prétention sur les contrées circumpolaires, ne figurait point parmi les puissances qui avaient pris part à l'adjudication. Cependant, si elle s'était officiellement détachée de la question, un Français, on l'a dit, avait eu la pensée de se rendre à Baltimore afin de suivre pour son compte personnel et son agrément particulier les diverses phases de cette gigantesque entreprise. C'était un ingénieur au corps des mines, âgé de 35 ans. Entré le premier à l'école polytechnique et sorti le premier, il est permis de le présenter comme un mathématicien hors ligne, très probablement supérieur à J.T. Maston, qui lui, s'il était un calculateur remarquable, n'était que calculateur. Ce qu'eût été un Le Verrier auprès d'un Laplace ou d'un Newton. Cet ingénieur, ce qui ne gâtait rien, était un homme d'esprit, un fantaisiste, un original, comme il s'en rencontre quelquefois dans les ponts et rarement dans les mines. Il avait une manière à lui de dire les choses et particulièrement amusante. Lorsqu'il causait avec ses intimes, même lorsqu'il parlait science, il le faisait avec le laisser-aller d'un gamin de Paris. Il aimait les mots de cette langue populaire, les expressions auxquelles la mode a si rapidement donné droit de cité. Dans ces moments d'abandon, on eût dit que son langage se serait très mal accommodé des formules académiques et il ne s'y résignait que lorsqu'il avait la plume à la main. C'était en même temps un travailleur acharné, pouvant rester 10 heures devant sa table, écrivant couramment des pages d'algèbre comme on écrit une lettre. Son meilleur délassement, après les travaux de haute mathématique de toute une journée, c'était le whist, qu'il jouait médiocrement, bien qu'il en eût calculé toutes les chances. Et quand la main était au mort, il fallait l'entendre s'écrier dans ce latin de cuisine cher au pipeau « Cadaveri pusandum est ». Ce singulier personnage s'appelait Pierre II, Alcide Pierre II, et dans sa manie d'abréger, commune d'ailleurs à tous ses camarades, il signait généralement « à Pierre » et même « à Pie » sans jamais mettre de point sur l'i. Il était si ardent dans ses discussions qu'on l'avait surnommé « Alcide sulfurique ». Non seulement il était grand, mais il paraissait haut. Ses camarades affirmaient que sa taille mesurait la 5 millionième partie du quart du méridien, soit environ 2 mètres, et il ne se trompait pas de beaucoup. S'il avait la tête un peu petite pour son buste puissant et ses larges épaules, comme il la remuait avec entrain, et quel vif regard s'échappait de ses yeux bleus à travers son pince-nez. Ce qui le caractérisait, c'était une de ces physionomies qui sont gaies, tout en étant graves, en dépit d'un crâne dépouillé prématurément par l'abus des signes algébriques sous la lumière des verres de Rosto, autrement dit des becs de gaz des salles d'études. Avec cela, le meilleur garçon dont on ait jamais conservé le souvenir à l'école et sans l'ombre de pause. Bien que son caractère fût assez indépendant, il s'était toujours soumis aux prescriptions du code Grand X qui fait loi parmi les polytechniciens pour tout ce qui concerne la camaraderie et le respect de l'uniforme. On l'appréciait aussi bien sous les arbres de la cour des Acas, ainsi nommée parce qu'elle n'a pas d'acacia, que dans les casernes, dortoirs ou les rangements de son bahut. L'ordre qui régnait dans son coffin dénotait un esprit absolument méthodique. Mais que la tête d'Alcide Pierre II parut un peu petite au sommet de son grand corps, soit. En tout cas, elle était remplie jusqu'au ménage, on peut le croire. Avant tout, il était mathématicien, comme tous ses camarades le sont ou l'ont été. Mais il ne faisait des mathématiques que pour les appliquer aux sciences expérimentales, qui, elles-mêmes, n'avaient de charme à ses yeux que parce qu'elles trouvaient leur emploi dans l'industrie. C'était là, il le reconnaissait bien, un côté inférieur de sa nature. On n'est pas parfait. En somme, sa spécialité, c'était l'étude de ces sciences qui, malgré leur progrès immense, ont et auront toujours des secrets pour leurs adeptes. Mentionnons au passage qu'Alcide Pierre II était célibataire. Comme il le disait volontiers, il était encore égal à 1, bien que son plus vif désir eût été de se doubler. Aussi, ses amis avaient-ils déjà pensé à le marier avec une jeune fille, charmante, gaie, spirituelle, une provinciale de Martigues. Malheureusement, il y avait un père qui répondit aux premières ouvertures par la martigalade suivante. « Non, votre Alcide est trop savant, il tiendrait à ma pauvrette des conversations inintelligibles pour elle. » Comme si tout vrai savant n'était pas modeste et simple. C'est pourquoi, très dépité, notre ingénieur résolut de mettre une certaine étendue de mer entre la Provence et lui. Il demanda un congé de Nantes, il l'obtint, et ne crut pas pouvoir le mieux employer qu'en allant suivre l'affaire de la North Polar Practical Association. Et voilà pourquoi, à cette époque, il se trouvait aux États-Unis. Donc, depuis qu'Alcide Pierre II était à Baltimore, cette grosse opération de Barbicane & Co. ne laissait pas de le préoccuper. Que la terre devint jovienne par un changement d'axe, peu lui importait. Mais par quels moyens elle le pourrait devenir, c'était là ce qui excitait sa curiosité de savant, non sans raison. Et dans son langage pittoresque, il se disait « Évidemment, le président Barbicane s'apprête à flanquer à notre boule un nion de première catégorie. Comment et dans quel sens? Tout est là. Parbleu, j'imagine bien qu'il va la prendre fin comme une bille de billard quand on veut faire un effet de côté. S'il la prenait plein, elle irait se balader hors de son orbite. Et au diable, les années actuelles qui seraient changées de la belle façon. Non, ces braves gens ne songent évidemment qu'à substituer un nouvel axe à l'ancien. Pas de doute là-dessus. Mais je ne vois pas trop où ils iront prendre leur point d'appui, ni quelle secousse ils feront arriver de l'extérieur. Ah, si le mouvement diurne n'existait pas, une chiquenaude suffirait. Or, il existe le mouvement diurne. On ne peut pas le supprimer, le mouvement diurne, et c'est bien là le canis dentum. Il voulait dire le chien-dent, cet étonnant Pierre II. En tout cas, ajouta-t-il, de quelque manière qu'il s'y prenne, ce sera un chambardement général. En fin de compte, notre savant avait beau se décarcasser la boîte au sel, il n'entrevoyait même pas quel serait le procédé imaginé par Barbicane et Maston. Chose d'autant plus regrettable que si ce procédé lui eût été connu, il en aurait vite déduit les formules mécaniques. Et c'est ce qui fait qu'à la date du 29 décembre, Alcide Pierre II, ingénieur au corps national des mines de France, arpenté du compas largement ouvert de ses longues jambes, les rues mouvementées de Baltimore.